Le thème, c'est des histoires inspirantes. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'inspire? Quelles sont les histoires qui m'inspirent? Je me suis dit, pour moi, ce n'est pas tellement les histoires de choses extraordinaires. Ce n'est pas les guérisons géniales. Ce n'est pas le réveil qui explose. Ce n'est pas les grandes choses. Ce n'est pas ce qu'on a tendance à dire, voilà ce qui va inspirer. Alors, il y a des gens que ça inspire, il y a des gens dont la foi est nourrie par ce genre de choses. Il ne faut pas cracher dessus. Mais moi, ça ne m'inspire pas, parce que c'est trop loin de mon expérience. Moi, des grands miracles, des petits miracles, oui, mais des grands miracles. On vit dans une société, dans une église, dans un cadre dans lequel on ne peut pas dire qu'on voit des choses extraordinaires se passer. Oh, c'est triste dans un certain sens. Mais qu'est-ce qui m'inspire? Pour moi, ce qui m'inspire, c'est les choses qui sont proches de mon expérience quotidienne. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le week-end qu'on vient de vivre, où on a eu des témoignages, 3-4 témoignages. Et pour moi, c'est des témoignages qui étaient inspirants. Inspirant parce qu'on a vu la réalité de la relation avec Dieu de ces 3-4 personnes qui ont rendu des témoignages. On a entendu les choses qu'ils ont vécues. Ce n'étaient pas des grandes choses extraordinaires, mais c'était des choses vraies, c'était des choses où on sentait Dieu à l'œuvre. On sentait que ces gens, ils ont vécu quelque chose avec Dieu. Et ça, c'est inspirant. Pour moi, ça m'encourage. Pour moi, ça me permet d'avancer. Alors, merci à ceux qui ont rendu témoignage. Puis on peut parler aussi de tes filles qui ont parlé 15 jours avant, ou toi, Christian, qui a parlé de ces gens pauvres, vraiment pauvres, je dirais physiquement, mais pauvres aussi intellectuellement, des gens tout simples, mais qui aiment la Bible. Et ça t'a inspiré, et ça nous inspire. Ce n'est pas des génies de la théologie, mais des gens qui vivent la parole. Et ça, ça parle. Alors je me suis dit, ok, différentes choses qui inspirent, mais comment Paul, lui, fait, au travers de son histoire, pour inspirer ceux auxquels il écrit? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de miracles. Il dit que, il parle de la puissance de Dieu qui a agi au travers de son ministère, certainement. Mais la grande majorité des choses qu'il dit sur lui-même, c'est plutôt ses combats, ses difficultés, et comment au travers de ces choses-là, il a continué. Dans 3 semaines, avec Sudi, on doit aller à faire un camp avec les personnes, les aînés. Je dis maintenant mes contemporains. À la montagne, et notre thème c'est l'épître aux Philippiens. Donc comme je suis là-dedans, je me suis dit, mais comment Paul parle de lui-même aux Philippiens pour les inspirer, pour les motiver. Alors, ce n'est pas un épître. C'est un peu un épître qui ressemble un peu à ce qu'on peut vivre ici. Alors, pas tout à fait. Parce qu'il y a... Premièrement, à Philippe, ils ne sont pas dans un endroit où le christianisme est reçu de façon évidente. Quand Paul y a été, il a été mis en prison. Et puis, ils sont une petite minorité. Alors, nous, on n'est pas mis en prison, mais on est complètement en dehors de la culture de notre époque, nous aussi. Et puis, eux, contrairement à nous, ou peut-être en parallèle avec nous, ils sont d'une profonde pauvreté. C'est l'Épître aux Corinthiens qui le dit. Nous, on n'est pas d'une profonde pauvreté, mais on est plutôt trop riche. Alors, il y en a parmi vous qui ne sont pas si riches que ça, j'en suis conscient. Mais quand même, à côté de la profonde pauvreté de cette période, on est dans une aisance incroyable. Mais c'est aussi, de la même manière peut-être, un défi. Et puis Paul, face à ça, il se fait du souci pour ces Philippiens. Il a peur qu'ils ne tiennent pas debout parce qu'il y a ces difficultés, comme... Franchement, on peut avoir peur pour nous dans ce qu'on vit, c'est pas toujours facile. Et puis Paul, lui, il n'est pas dans une situation facile dans l'Épître aux Philippiens. Il est en prison. Il a des chances tout à fait non négligeables d'être condamné à mort, et sûrement pas à une mort confortable. Et puis il a peur, et ça sort très nettement dans cette épître, que sa situation personnelle, les difficultés que lui rencontre, lui Paul l'apôtre, il est en prison. Ça va poser des questions à ceux qui l'admirent. Qu'est-ce que ce christianisme si celui qui a là, vraiment le modèle, il est en prison. Donc il veut les encourager là au travers. Et il veut l'inspirer, les inspirer un peu de la manière dont lui est inspiré pour supporter ses difficultés. Il veut leur montrer que ses propres difficultés, en fait, il y a une manière de les voir qui fait qu'eux-mêmes puissent... Oui, il veut les inspirer, comme moi j'ai été inspiré par vos histoires, vos réalités. Il veut que les réalités qu'il vit inspirent les réalités des Philippiens. Alors, c'est intéressant de savoir comment il fait. Juste quelques axes. Je vais d'abord vous lire un petit paragraphe dans Philippiens. Il y aurait plusieurs qu'on aurait pu prendre. Chapitre 1er, versets 12 à 21. Il est donc en prison. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour une mauvaise raison, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie. Mourir représente un gain. Comment affronter des circonstances interrogeantes, difficiles, la prison, et puis l'autre chose, des gens qui devraient être ses amis, qui agissent en fait pour lui faire du mal. Comment affronter cela? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que Paul, il ne regarde pas tellement à ses circonstances. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il dit... voilà, je suis en prison, mais ça a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. La plupart des frères ont été encouragés pour annoncer sans crainte la parole. Et ces hommes qui font un peu n'importe quoi, finalement, il peut dire, Christ n'en est pas moins annoncé. Beaucoup plus important pour Paul que ses circonstances personnel, c'est l'Évangile. Beaucoup plus important que ses circonstances personnelles, ce qui lui arrive, c'est le plan de Dieu. Il se place tout de suite sur ce niveau-là. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre ça. Parce que tant qu'on regarde à nos circonstances, à nous-mêmes, bien, il y a une immense partie de la réalité qui nous échappera. Franchement, je ne suis pas le centre du monde. Nous ne sommes pas le centre du monde. C'est vrai que Dieu nous aime personnellement. C'est vrai qu'on peut être reconnaissant, Dieu s'occupe de nous. C'est vrai que nos vies sont guidées, habitées par lui. Et c'est vraiment important. Mais cette chose-là, elle est encomblée, elle est, comment dire, encastrée dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Dieu a des plans. Dieu fait quelque chose qui nous dépasse. Il s'occupe de nous d'une façon remarquable, mais On n'est pas le cœur de ce que Dieu veut faire. Pourquoi Paul est heureux des progrès de l'Évangile et que ça l'encourage de voir l'Évangile qui progresse malgré toutes ces circonstances difficiles? Mais c'est quoi l'Évangile, finalement? Alors, c'est une chose évidente et qui ressort aussi ici. L'Évangile, c'est, on peut en dire, la proclamation de l'Évangile, l'Évangile annoncé, c'est l'évangélisation. Et franchement, Paul, il a vraiment ça sur le cœur. C'est son appel d'évangéliser. Il a été appelé à ça. C'est, malheur à moi si je n'évangélise pas, dit-il. C'est vraiment au centre pour lui. Mais l'Évangile, ce n'est pas simplement le chemin du salut. De nouveau, l'Évangile, ce n'est pas centré sur nous. C'est, et il le dit un peu plus loin, il appelle ça l'Évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ fait pour moi, c'est la bonne nouvelle de qui est Jésus-Christ. Ça ressort aussi dans ce passage, et ça m'a vraiment frappé. Au verset 20, il dit « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Franchement, le grand but de Dieu, le cœur de ce que Dieu fait, c'est de manifester Christ, c'est de manifester la grandeur, la perfection de qui Jésus est. Sur le cœur de Dieu, avant que nous soyons sur son cœur, Christ est sur son cœur. C'est Jésus l'important, c'est Jésus le centre. Et on ne comprendra jamais ce qui peut arriver dans nos vies ou dans le monde ou, si on ne réalise pas qu'au cœur de tout ça, ben Dieu veut manifester au travers de son Fils, par son Fils. Il veut montrer qui il est dans la personne de Jésus. C'est le grand but de Dieu. Et cet épître le fait très bien sortir. Vous le savez, tout le monde connaît ce passage dans le chapitre Dieu qui se termine après tout le cheminement de Jésus qui s'abaisse jusqu'à la croix, à la mort, etc. Ça se termine, c'est pourquoi tout ce qui est arrivé là, toutes ces choses douloureuses, tout cet abaissement de Jésus, il a un but, c'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ça que Dieu fait. Rien de tout ce qu'on peut voir autour de nous et dans nos vies et à l'extérieur, rien n'échappe à cette priorité pour Dieu qui est de glorifier Jésus, le montrer, être connu au travers de lui. Et pour qu'on connaisse Dieu, pour qu'il soit connu, pour que Jésus soit connu, pour qu'il manifeste vraiment qui Dieu est, ben le message qu'il a fait au travers de sa parole, mais surtout au travers de son œuvre, au travers de ce qu'il a fait, c'est le chemin de l'abaissement, c'est le chemin de la souffrance, c'est le chemin de la croix. Jésus peut être, et ça, l'Apocalypse le dit très clairement, n'est digne de tout cela que parce qu'il a été immolé, que parce qu'il s'est donné. Eh bien, la Philippiens nous dit aussi, juste avant de dire le chemin de Jésus, nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Ce que nous vivons a pour but de manifester, de refléter, d'être comme Jésus-Christ, dans le chemin qu'il a connu dans ce monde, pour la gloire future, pour montrer Dieu. Et notre appel principal, c'est de vivre dans ce monde, avec toutes les difficultés rencontrées, de telle manière qu'on manifeste les mêmes caractères que ceux de Jésus. Ce qui nous arrive est complètement secondaire, ou n'est que la base, ou le cadre dans lequel Dieu veut que Jésus soit vécu, montré. Donc la première chose que Paul veut inspirer, montrer à ses Philippiens, c'est que tout est centré sur Christ. C'est lui la clé, c'est lui le modèle, tout dépend de lui. Et tout ce qu'on peut faire, si on ne le met pas à la première place, est biaisé. Les malheurs de Paul servent au progrès de l'évangile, à ce que Jésus soit vu plus clairement. Et les problèmes des Philippiens, de la même manière, servent à ça. Les circonstances difficiles servent à refléter, à manifester ces caractères de Christ. Mais le lien n'est pas évident. Franchement, on a plutôt des fois tendance à penser le contraire. Par exemple, dans ce qu'on a lu, le fait qu'il y ait des chrétiens qui prêchent l'évangile, qui le prêchent pour faire du mal à Paul, on a de la peine à dire, mais comment est-ce que ça peut glorifier Jésus? Mais on peut penser à la même chose de toutes nos difficultés. Dans notre paroisse, on trouve souvent que c'est un peu lourd, parce qu'il y a beaucoup de malades. En quoi ces malades montrent Jésus? Alors on peut dire, si les malades avaient une attitude extraordinaire, ça manifeste Jésus. Mais souvent, ces malades, alors il y en a qui ont des bonnes attitudes, mais c'est dur. Et il y en a qui pataugent là-dedans. Il y a des divorces. On est en train de vivre quelque chose d'un peu dur. En quoi cette cassure profonde glorifie Jésus, montre qu'il est? Et puis, notre gestion des choses difficiles, franchement, on les gère souvent de façon plutôt médiocre. Est-ce que ça montre quelque chose de Jésus? Comment faire? On ne comprend pas. Est-ce qu'on ne va pas passer à côté de ce qui... Eh bien, Paul, face à ça, il dit une chose. Versets 19 et 20. Je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Quelle est l'attitude de Paul ici? Quelle est l'attitude qu'on retrouve tout au long de la Bible? C'est que Paul a une foi dans la parfaite souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui gouverne toutes choses et qui fait que toutes ces choses, il peut le savoir, le dire, sont pour le bien. Toutes ces choses arriveront à une chose, la grandeur de Christ sera manifestée. Ce n'est pas notre performance, ce n'est pas notre manière on peut, comme je disais, on peut patauger, avoir une gestion boiteuse. Ça n'empêche pas, parce que Dieu est souverain, que ça contribuera à cela. Je trouve très rassurant de penser, ma prédication maintenant, elle a ses limites. La souveraineté de Dieu fait qu'elle atteindra le but pour lequel Dieu l'a prévu. Et je dois avoir foi en cela. Et c'est vrai dans toute chose. Dieu est souverain, c'est-à-dire que tout est contrôlé par lui. Rien de ce qui se passe, mais absolument rien de ce qui se passe, que ce soit des malheurs, que ce soit de la maladie, que ce soit des guerres, que ce soit notre faiblesse, nos manquements, rien de cela n'empêche Dieu d'accomplir son plan. Et ça, toutes ces choses-là font partie du plan de Dieu. Et je crois que, franchement, la seule chose, ou la chose la plus importante pour tenir ferme dans toutes nos situations, c'est cette certitude, cette foi en la complète souveraineté de Dieu. Rien n'arrive sans qu'il soit derrière. Je crois que c'est peut-être la chose la plus inspirante, à garder le plus profondément au fond de nous, parce que tout affaiblissement de cette conception de la souveraineté de Dieu, finalement, je dirais, détruit la foi. On voit des événements, on ne réalise pas que Dieu est vraiment derrière, ça veut dire que Dieu est défait, qu'il a perdu quelque chose. Non, il est souverain. Et je crois que c'est un des messages les plus centraux qui revient toujours et toujours dans ce que Paul dit, et dans ce que je vous dis aussi d'ailleurs, parce que c'est une chose que je trouve... Bon, ça, cette certitude-là a changé ma vie et m'a porté tout au long de l'existence. Il est le Tout-Puissant. Dans le psaume 145, on a lu, il est dit qu'il est, je ne sais plus le terme exact, mais il est totalement juste et totalement bon. Dans les problèmes, les questions qu'on peut se poser, pour lesquelles on a besoin d'être souvent encouragé, ben, c'est souvent les relations avec les personnes. Paul ici, s'il réalise que des collaborateurs, des collègues, des gens qu'il connaît, qui font la même chose que lui, le font pour le démolir, ben, c'est pas facile à gérer. Je trouve que c'est très facile de juger le mal, ou même de supporter le mal, tant qu'il ne nous touche pas personnellement. On se rend compte, je sais pas, un exemple, tout le monde sait que ben, y a des accidents, que des enfants peuvent être écrasés par une voiture, que ça arrive. Oui, on le sait. Quand ça nous arrive personnellement, ben, c'est tout autre chose. Et où est Dieu là-dedans? On se pose vraiment la question. Quand c'est pour les autres, on se la pose de loin. Quand ça nous touche personnellement, c'est beaucoup plus difficile. Et je trouve qu'il faut réfléchir à ça. On a beaucoup de théories, je trouve, sur le divorce, par exemple. On peut avoir des théories sur le divorce. Quand c'est nos enfants, ou notre pasteur, ou des gens proches qui entrent dans ce genre de choses, ça change la donne. On commence à réfléchir différemment. Mais c'est vrai pour tous les problèmes. C'est facile de juger des homosexuels quand on c'est pas dans notre cadre. Quand ça arrive dans notre cadre, on réfléchit très différemment. Ou la méconduite de certains. Vous voyez bien ce que je veux dire. Mais c'est difficile. Et pour Paul, ce genre de choses, c'était difficile. C'est toujours difficile quand c'est les émotions qui commencent à nous gouverner. Nous gouverner soit pour, je ne sais pas, faire des choix ou accepter des choses qui ne sont pas acceptables, soit se mettre au-dessus et avoir des attitudes rigides. Moi, j'aimerais dire une chose, c'est face à ça, les recettes sont impuissantes. Le règlement, la manière d'agir, le juste, le faux, c'est un peu des illusions. Il ne faut pas qu'on arrive à savoir. Et bon, j'admire Paul parce que comment Paul, dans une situation comme celle-ci, garde sa liberté? On l'attaque personnellement, ben il dit une chose, je me réjouis finalement, ils font des bonnes choses, ils annoncent Christ. Comment c'est possible? Comment peut-on avoir cette attitude quand on est dans cette mécanique où il y a des jugements, où il y a des questions, où on ne sait pas comment dire, on a des accusations, ça va dans tous les sens? Eh bien, verset 19, il dit, « Car je sais que tout ça aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Conformément à ma ferme attente, à mon espérance que je n'ai de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance de mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir en gain. Christ est ma vie. C'est totalement impossible, j'ai l'impression, de résister dans des trucs qui nous touchent personnellement, où les émotions sont fortes, pas les choses légères, mais les choses profondes, à l'être humain, c'est totalement impossible de résister, d'avoir la bonne attitude. On est pris là-dedans. C'est impossible. Il faut être né de nouveau. Christ est ma vie. On lit souvent ce verset, Christ est ma vie. Ben, ça veut dire que Paul est haut dans la hiérarchie. Il a oublié tout le reste, il n'y a plus que... Il peut dire, Christ est toute ma vie. Je crois que plus profondément, ça veut dire, la vie de Christ est en lui. Il est né de nouveau. Vous voyez, Christ est ma vie. Et je crois que c'est une des caractéristiques de quelqu'un qui a la vie de Dieu, c'est que dans des circonstances comme celle-ci, on ne sait pas que faire, ben il reste debout. C'est un miracle. Être né de nouveau, c'est un miracle. Mais réussir à avoir l'attitude juste dans des circonstances comme celle-ci, c'est aussi un miracle. Et c'est parce que on a la vie de Dieu. Et il dit aussi, grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Ben, Dieu est vivant. Ce n'est pas simplement je suis né de nouveau, j'ai maintenant quelque chose en moi qui me permet de vivre. Non, il y a l'Esprit de Dieu qui nous assiste. Il y a l'intercession de Jésus, il y a sa présence, il y a des ressources dans tous les sens qui sont là pour que ce soit possible. Si on ne dépend pas de lui, si on ne reçoit pas cette assistance, si on croit que ah, je suis né de nouveau, c'est bon. Non, il y a un effort à faire, c'est une lutte, c'est un combat pour Paul. Mais il y a l'assistance de l'Esprit de Dieu. On n'est pas tout seul. Et franchement, quand on ne sait pas que faire, ben c'est là qu'on va chercher cette assistance. C'est là qu'on va être ouvert à l'Esprit. Et c'est une des raisons profondes pour lesquelles ces choses incompréhensibles arrivent, c'est pour nous apprendre aux uns et aux autres à dépendre du Saint-Esprit, à réaliser tout simplement, je ne peux pas. Mais il y a quelqu'un qui m'aide. Non seulement il m'a donné sa vie, mais il est actif maintenant. L'Esprit de Dieu qui est là. Et les expériences qu'on a entendues, les petites expériences qu'on a entendues pendant ce week-end, elles sont des démonstrations du travail de l'Esprit de Dieu dans les gens. Ça semble peut-être rien, ici c'est peut-être beaucoup plus profond, mais l'Esprit de Dieu, il est pour les grandes choses, mais il est aussi nécessaire pour les choses beaucoup plus petites. Mais il est là, et c'est son rôle, c'est son travail. Et c'est pas seulement de faire des miracles extraordinaires, mais c'est nous permettre de vivre simplement et de vivre à la gloire de Jésus, manifestant Jésus. Sans lui, c'est impossible. Et la troisième chose, il dit, non seulement grâce à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, mais grâce à vos prières. Grâce à nos prières. On n'est pas tout seul. On a besoin de la prière des autres. C'est une illusion de croire qu'on peut vivre sa vie chrétienne, son témoignage chrétien, gérer des choses difficiles tout seul, simplement seul avec Dieu et avec l'Esprit Saint. Ce qui est prévu par le plan de Dieu, c'est qu'on a besoin les uns des autres et on a besoin de la prière les uns des autres. Pas seulement des conseils, de l'action, de la prière, que les autres, les uns les autres, on se porte ensemble devant Dieu. C'est pour ça que des moments comme ceux-ci sont importants. On ne prie pas très exactement les uns pour les autres. Ou un week-end est important. Pas tellement parce qu'on prie explicitement les uns pour les autres. Mais tout simplement parce que finalement on se porte les uns pour les autres. Il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit de Dieu qui habite en chacun de nous fait que, même au-delà des mots, et les mots sont utiles, il y a comme une prière. Quand on rend témoignage, quand on cause entre nous des conversations significatives, eh bien c'est ceci qui nous construit, qui nous permet de passer au travers des circonstances difficiles avec espérance. L'inspiration, c'est « je ne suis pas seul ». J'avais encore une chose que je n'ai pas dite, mais que je peux dire maintenant, parce que ça me semblait important. Fais rien, c'est l'ennui de ce genre d'appareil, on tape, puis on saute une page. Alors, mais je le dis quand même, parce qu'il y a une chose importante, je trouve. En fait, comment affronter ces circonstances? Quelle attitude avoir face à ces circonstances adverses? Alors, j'ai dit un peu comment les gérer, mais un autre aspect qui est important. Je dirais, réaliser que ceci, c'est totalement normal. Ça fait partie de la vie. Pierre nous dit, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Non. C'est tout sauf extraordinaire. Ça fait partie du plan de Dieu, ce genre de choses. Il continue, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est un but glorieux. Ça vaut la peine. Quelle attitude je dois avoir quand arrivent des choses négatives où je sais que Dieu est souverain, où je sais que c'est normal? Ben, quand c'est normal, qu'est-ce qu'on doit faire? Accepter. Il y a un côté où ces choses-là, notre seule solution, c'est de les accepter. Le problème, ce n'est pas les circonstances. Le problème, c'est ma manière de les gérer. Et vouloir changer les circonstances, c'est un peu traiter un symptôme. C'est passer à côté, vraiment, de ce que Dieu veut opérer. Accepter. Mais, accepter sans fatalisme. Et ça, c'est aussi important. Parce que c'est trop facile de tomber dans le fatalisme. Ah ouais, Dieu veut. Que dit Philippiens ? Un peu plus loin, tout petit peu plus loin, juste après, même dans le chapitre. Paul y dit, « Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, » il dit « vivre ou mourir, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est beaucoup meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Ah, alors, persuadé de cela, alors je sais que je resterai, que je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Il y a des circonstances qui sont là, sur lesquelles il n'a pas de contrôle, finalement. Eh bien, il va dire, ah ben, on va voir ce qui va venir. Non, Paul, il réfléchit, il considère, il n'accueille pas bêtement. Non, il se dit, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça m'indique, quelles sont les possibilités, comment dois-je faire, pas faire, qu'est-ce que Dieu veut faire. Vous voyez, il met Dieu au premier plan, il réfléchit, responsable, ouais, il est prêt à agir, mais il est soumis à Dieu, il n'a pas le contrôle des choses. Mais il considère, il cherche à être en accord avec ce que Dieu pense. Ce serait mieux d'être au ciel, c'est lourd maintenant, alors, ok. Puis d'un autre côté, ces pauvres Philippiens, ils ont besoin de moi. C'est Dieu qui va décider, mais il réfléchit. Il n'est pas passif vis-à-vis des choses. Et je crois que c'est très important, accepter les situations, mais pas être passif, pas pour les changer, mais pour les vivre, les accepter. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de prier les uns pour les autres et que la prière, elle n'est peut-être pas simplement il faut ci, il faut ça, etc. La prière pour moi, et on le voit ici, dans cette, c'est beaucoup une réflexion devant Dieu. Ici, Paul, il réfléchit devant Dieu, il se pose des questions, il est là, il est dépendant. Réfléchir, c'est pour moi une forme importante de prière. C'est beaucoup plus important que la prière qui demande, qui dit il faut faire ci, qu'il faut... Non, c'est une prière qui demande du discernement. C'est une prière où on veut comprendre et saisir la pensée de Dieu finalement, sans que les circonstances soient au centre. C'est une prière qui nous apprend à connaître Dieu. Et quand on prie les uns pour les autres, je trouve que c'est un peu la même chose. Pour en revenir à mon dernier point là, à l'assistance. Grâce à vos prières, moi je dirais apprenons à prier les uns pour les autres, non pas en sautant sur les besoins, mais en réfléchissant à la personne, à qui elle est, qu'est-ce que Dieu peut faire pour elle. Demandez à Dieu, mais vous voyez, on ne dit pas Dieu, dis-moi ce qu'elle pense, puis on écoute. Non, on entend Dieu au travers de la réflexion, on entend Dieu au travers de penser Dieu. Il habite en nous et c'est en pensant, en réfléchissant, en priant, mais dans cette espèce de dialogue intérieur qu'on prie vraiment les uns pour les autres. Alors, pour clore, pour résumer, je trouvais Paul, il parle de quatre choses qui l'inspirent et dans lesquelles il veut inspirer les Philippiens et nous inspirer. Un, c'est finalement, si on veut comprendre les choses dans les choses compliquées, eh bien, réaliser que tout est centré sur Jésus, tout est centré sur Christ. Tout ce qui arrive, finalement, est pour glorifier, montrer Jésus. C'est lui le maître, l'univers est à lui et pour lui, ben, reconnaissons-le. Et franchement, on ne le reconnaît pas souvent. On est bien plus souvent au centre où on met un Dieu abstrait au centre. Non, c'est Jésus-Christ, le Fils, qui est le cœur de ce que Dieu veut. Ce qui met de côté toute autre religion qui même honore Dieu. Non, c'est Christ. Centré sur Christ. On ne comprendra rien autrement. La deuxième aspiration, c'est être confiant dans la parfaite souveraineté de Dieu, dans son contrôle sur les choses. Rien n'arrive sans qu'il le veuille à un niveau ou à un autre. Tout ce qui arrive, je peux être sûr que Dieu est pour moi et que c'est pour le bien et que ça glorifie Jésus. C'est son but. Troisième aspiration, ben savoir accueillir les circonstances. Ne pas être en réaction avec les circonstances. Ne pas être tout de suite à vouloir les changer. Non, accueillir sans passivité, sans fatalisme les circonstances. Et la dernière aspiration, je trouve la meilleure, je ne suis pas seul. J'ai Dieu, le Saint-Esprit, et j'ai mes frères et sœurs. Le Seigneur veut te remercier pour ta parole, mais te remercier pour la réalité de ces choses. Tu as un Dieu vivant qui s'occupe de nous, un Dieu qui veut nous bénir. Et ce matin, tu nous as donné quelques indications. Je crois que croire et savoir, elles viennent de toi, Seigneur, et elles ont un impact sur nos vies. Et je te prie que même si ça peut sembler un peu abstrait, ça entre dans nos cœurs, ça entre dans notre vision, et qu'on voit les choses comme toi tu les vois, comme Paul les voyait. On a besoin d'être des imitateurs de Paul, avoir une vision comme celle-ci. Alors merci de ces récits qui sont dans ta parole pour nous encourager. Merci pour les expériences que tu nous fais faire aux uns aux autres, pour aussi être des encourageants, des inspirateurs les uns pour les autres. Seigneur, tu es plein de grâce et on veut te dire vraiment merci pour toutes tes ressources. Amen.